va parler un peu de football avec Renaud Bourbonnais d'RDS. Comment vas-tu, mon chum?
Salut, Anthony, mon chum. Comment ça va, toi?
Oui, ça va très bien. Je parlais avec Alex, justement, Josh Allen, qui est devenu le premier joueur d'histoire de NFL à inscrire 3 touchés au sol et lancer 3 passes de toucher dans la même rencontre. Lui, il connaît toute une saison, mais malheureusement, c'était pas assez pour vaincre les Rams hier.
Non, t'as raison, mais selon moi, c'est pas Josh Allen qui... Ben, en fait, je pense que tout n'importe qui voit 42 points sur le tableau pour les Bills va savoir que Josh Allen n'a pas été responsable. Mais tu le mentionnes, Tony, ça fait 2 semaines de suite que Josh Allen sort de son match, il regarde sa ligne de statistiques puis il dit « Personne dans l'histoire n'a jamais fait ça. » La semaine passée, touché sur réception, touché au sol, passe de toucher. Cette semaine, 3 par la passe, 3 au sol pour Josh Allen. Il est vraiment inarrêtable. Puis il y a toujours un moment dans les matchs. Parce que hier, j'étais à la description sur NFL Red Zone. Donc, on a vu ce que Josh Allen a fait. Puis quand on est à NFL Red Zone, moi et Didier Ormejus, on dit toujours la même chose. Il y a un moment où Josh Allen, il rentre dans la cabine de téléphone, puis il revient plus. C'est Superman qui sort de la cabine de téléphone puis qui est là jusqu'à la fin du match. Et hier, c'est ce Superman-là qu'on a vu. Mais c'est les Rams qui m'ont impressionné. C'est Sean McVay qui m'a impressionné parce que sur la dernière séquence à l'attaque des Rams, ils avaient l'occasion de prendre 3 points, de forcer les Bills à marquer un toucher, puis de se dire, ben on aurait, si on perd, ça va être une défaite honorable. Non, pour battre les Bills, il faut que tu mettes toute la gomme. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à le faire cette saison. Sean McVay a dit, moi, je vais rouler les dés en 4e essai, je vais écouler le plus de cadrans possible et je vais marquer un toucher parce que je veux forcer les Bills à avoir 2 possessions d'écart. Ça a réussi. Donc, pour moi, un gros chapeau à Sean McVay. Et ça, c'est une des raisons principales pour laquelle, même s'ils sont 7-6, on peut pas compter les Rams pour battus. Bon, ils jouent dans une division faible. N'importe qui pourrait gagner leur division. Mais quand même, ça, c'est un avantage pour eux. Même quand l'équipe des Rams n'est pas au niveau de celle des Bills, si on prend juste les joueurs, mais leur entraîneur fait tellement des bonnes décisions avec du guts que ça leur a donné une belle victoire contre Buffalo.
Et dans la victoire, 12 passes pour des gains de 162 verges pour Puka Nacua.
Ouais, Puka Nacua. Et ils l'ont utilisé au sol aussi, en plus, dans la rencontre. Donc, il a marqué 2 touchés dans ce match-là. Il est vraiment en train de se démarquer. Rappelle-toi, l'an dernier, il y a eu une saison record pour les receveurs recrues. Puis cette année, bon, il a manqué quelques matchs, donc sa ligne statistique ne va pas nécessairement être révélatrice pour l'ensemble de la saison. Mais quand même, c'est assez spectaculaire de voir ce gars-là, qui n'est pas gros, qui n'est pas le plus grand non plus, mais il a une certaine physicalité dans son jeu. Il est explosif. On est capable de l'aligner à littéralement toutes les positions de receveur sur le terrain, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Puis il est capable de courir tous les tracés. Donc, Puka Nacua, assurément, là, pour des années et des années, ça va être un joueur dangereux pour les Rams ou peu importe où est-ce que sa carrière là, va se poursuivre.
Hey, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux avant le match, là, mais ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui a gagé plus que 3 millions de dollars sur la victoire des Eagles sur les Panthers. Lui, il a fait faire une crise cardiaque hier durant le match, là, j'imagine, là, parce que, tout le monde pensait à un moment donné, c'était un upset là, pour les Panthers, mais là, les Eagles ont réussi à gagner ce match-là. Mais je veux commencer avec les Panthers parce que t'as un porteur de ballon, t'es un Canadien, Chuba Hubbard, il est devenu le 2e joueur canadien à atteindre 1000 verges au sol. Faut le faire, là.
Ouais. Exact. C'était arrivé en 1984, le nom du joueur m'échappe, là, pour être honnête avec toi. Mais Chuba Hubbard qui connaît toute une saison, puis même, je te dirais, toute une progression depuis quelques années parce que, rappelle-toi, l'an dernier, pour commencer l'ère Bryce Young en Caroline et tous les Panthers avaient sorti le gros chèque pour Miles Sanders, l'ancien porteur de ballon justement des Eagles de Philadelphie. Puis on se disait, c'est un gars qui va nous aider, qui va contribuer. Mais Miles Sanders, là, en 2 saisons, là, je sais qu'il y a eu des blessures et tout, mais quand même, il a rien fait pour les Panthers. 0-0-0, il s'est fait voler directement son poste par Chuba Hubbard, qui a reçu un gros contrat là, il y a quelques semaines à peine. Il a été récompensé pour son équipe, pour son bon travail. Mais c'est le fun d'avoir un joueur canadien qui est capable de se démarquer à une position de ce qu'on appelle un skill position là, au football. Donc, comme porteur de ballon, parce que tu sais, des joueurs de ligne, on en a vu beaucoup. Là, on commence à avoir des demi-défensifs. On voit Benjamin Saint-Just, par exemple, qui se démarque comme joueur canadien. Mais tu sais, de voir des receveurs comme Joshua Palmer à Los Angeles, de voir un Chuba Hubbard qui est un porteur de ballon, ben ça montre on n'est pas juste ici pour former des joueurs de position complémentaire. Là, les skills position au Canada aussi, on est capable de développer ces joueurs-là. Puis on a deux excellents exemples là, devant nous qui ont connu des bonnes journées hier.
En donc, en parlant des Eagles, en 13 rencontres, puis en parlant de porteurs de ballon, en 13 rencontres, à 9 reprises, Saquon Barkley a atteint le plateau de plus que 100 verges au sol dans le match. 9 fois sur 13. Il y a eu 124 verges. Et s'il continue dans les derniers 4 matchs à produire à ce rythme-là, il va battre le record détenu par Eric Dickerson, qui avait 2105 verges au sol. Ça, c'est un record qui remonte à 1984. Ça, ouais. C'est incroyable, là.
C'est assez malade, puis surtout, tu te dis que Eric Dickerson, cette année-là, il avait porté le ballon, Tony, pas moins que 379
My
fois,
God.
Ce qui est complètement énorme. C'est quoi, on est à 266 en ce moment. Bon, évidemment, il va falloir qu'il porte pas mal le ballon s'il veut se rendre jusqu'à Eric Dickerson, mais jamais je vais croire qu'il va se rendre à 379 portées en une saison. Quand même, c'est vraiment spectaculaire ce que Saquon Barkley est en train de faire, surtout que, pense-y, à l'époque, on courait beaucoup plus avec le ballon qu'aujourd'hui. Oui, les Eagles courent beaucoup le ballon par rapport à certaines autres équipes, mais quand même, on est dans ce qu'on appelle le passing era de la NFL. C'est pas coutume de se remettre sur son porteur de ballon pour être son plus gros producteur dans une saison. Puis surtout, Saquon Barkley avait une carrière, ça vend pas au point de vue qu'il n'était pas un bon joueur, mais il jouait tellement pour une mauvaise équipe à New York. À tous les ans, c'était une mauvaise équipe avec une mauvaise ligne à l'attaque, avec un mauvais corps arrière. Donc, il n'y avait rien pour l'aider à faciliter son travail. Il a été beaucoup blessé au cours de sa carrière aussi, ce qui fait en sorte qu'on disait, ben, tu sais, maintenant, il va signer avec les Eagles. Enfin, il va jouer avec une bonne équipe, mais ça sera pas le Saquon qu'on aurait pu avoir s'il avait commencé sa carrière avec les Eagles. Ben, finalement, non, il connaît sa meilleure saison en carrière, puis peut-être une, sinon la meilleure saison de tous les temps pour un porteur.
Dans le match opposant les 49ers de San Francisco et les Bears de Chicago, à un moment donné, j'ai vu Brock Purdy, le quart arrière des 49ers, se faire frapper à la tête. J'ai dit, ce gars-là, c'est fini pour le match. Il est revenu, puis a connu tout un match. Là. Il m'a impressionné. Ouais. Là. Écoute, là.
80% de passes complétées dans le match, 20 en 25. Il était extrêmement précis. Il jouait contre les Bears, on s'entend, c'est pas non plus le défi de l'année. Par contre, Brock Purdy, il faut arrêter de dire qu'il joue bien parce qu'il a une bonne équipe autour de lui. Est-ce que ça l'aide? C'est sûr que oui. Mais il est constamment pris avec des joueurs blessés. Hier, il jouait avec son troisième porteur de ballon. Puis même là, Garando s'est blessé lui aussi. Donc, les trois premiers porteurs de ballon des 49ers, jusqu'à preuve du contraire, sont blessés en ce moment. Rapidement dans le match, il a fait ce que tout bon corps arrière réussit à faire, surtout dans un match où il y a des absents. Trouve tes joueurs clés et cible-les. Il a envoyé 8 fois le ballon à Juwan Jennings, 6 fois le ballon à George Kittle, qui est allé chercher 151 verges d'ailleurs. Donc, pour moi, Brock Purdy, en ce moment, il joue pas bien pour un gars qui a été repêché tard. Puis là, ça fait 2 ans qu'on peut le dire maintenant. Il joue bien tout court. Il est parmi les bons carrières de la NFL. Je te dis pas qu'il est dans la conversation de joueur par excellence ou même qu'il va l'être un jour dans sa vie. Mais présentement, il faut lui donner. Il fait partie d'un groupe, disons, des 10 meilleurs carrières de la NFL, assurément.
Les Chiefs hier, ils ont joué contre une équipe amochée, les Chargers. C'était pas le meilleur match de Pat Mahomes. Par contre, il y en a plusieurs qui prendraient un 24-37 avec 210 verges puis un touché. Mais ils ont trouvé un moyen de gagner. Même sans Mahomes, c'est son meilleur.
Exact. Puis la force surtout des Chiefs dans toute cette histoire-là, on protège le ballon. Victime d'aucun revirement hier dans le match contre les Chargers. Ce qui, au final, aurait pu faire la différence étant donné à quel point ça finit serré. Puis je vous entendais parler juste avant la pause du coup de chance des Chiefs. Écoute, il y a beaucoup de fois cette saison que j'aurais été d'accord avec vous au sens où la semaine dernière contre les Raiders, ça n'a aucun bon sens ce qui s'est passé. Ils auraient dû perdre ce match-là. Mais cette semaine, écoute, sur un placement de 31 verges, ça touche le poteau, ça rentre à l'intérieur. Pour moi, ils auraient plutôt été malchanceux s'ils avaient raté un placement de 31 verges qu'en l'ayant réussi en frappant le poteau. Mais ce que je remarque dans ce match-là, c'est que ça a été un match pour les Chargers très, très physique, au sens où on s'est fait frapper beaucoup. Justin Herbert, combien de jeux est-ce qu'il est resté par terre puis ça a été long avant de se relever parce que ça faisait mal de jouer contre Chris Jones puis le front des Chiefs dans ce match-là. Donc, j'ai l'impression que si on jouait un deuxième puis un troisième match encore entre ces deux équipes-là en éliminatoire, j'ai l'impression que l'écart se creuserait entre les deux équipes parce que les Chiefs sont tellement puissants qu'ils maganent l'équipe. La semaine prochaine, ça fera pas du bien aux Chargers de jouer. Tout le monde va avoir des bobos dans leur match. Donc, pour moi, c'est ce qui a fait la différence. Le niveau de physicalité des Chiefs dans ce match-là est venu leur donner le petit edge pour aller par-dessus la barre.
On va parler du match de ce soir, la prévision pour le match du Monday Night Football, comme on dit. Mais avant ça, juste en terminant avec les Seahawks de Georges Larac, des Seahawks de Seattle, qu'est-ce que tu as pensé de leur victoire? Ils ont profité de quelques revirements du quart arrière, hein?
Ben exactement. Ils ont profité d'un revirement surtout rapidement dans le match Kyler Murray qui leur a fait cadeau du ballon. Et ils ont un gars qui s'est démarqué, qui est un gars que j'avais hâte que ça débloque sincèrement pour lui. Zach Charbonnet, leur porteur de ballon, numéro 26, qui est le second d'habitude parce qu'on sait qu'on a toujours des blessés dans le champ arrière du côté de Seattle. C'est une tradition d'année en année depuis que Marshawn Lynch est parti. Donc, on investit des choix au repêchage sur des porteurs de ballon. Puis Zach Charbonnet, ça fait quoi? Deux saisons, en fait, maintenant qu'il est avec les Seahawks. C'est un ancien des Bruins de UCLA dans la NCAA. Mais on dirait qu'on n'avait jamais l'éclat pour lui parce qu'on n'avait jamais l'occasion de lui remettre à répétition le ballon. Ben là, on a réussi à avoir une attaque équilibrée dans ce match-là. On a couru 22 fois avec lui, 31 fois total dans le match. Il est allé chercher 134 verges. Puis ça a fait la différence parce que les Cardinals sont aussi une équipe qui court bien le ballon, qui aime contrôler le cadran. Et là, les Seahawks est un peu entré dans leur cours en disant non, c'est nous qui va jouer ce jeu-là. Vous allez devoir vous adapter à nous et pas le contraire. Ajoute à ça que Geno Smith a complété 80% de ses passes. Ça a été fait pour les Seahawks qui là prennent une grosse option. En fait, ils ont leur destinée entre leurs mains pour le championnat de la division Ouest de la NFC.
Segment Habs Radio dans environ une dizaine de minutes avec Éric Bélanger de la poche bleue blanc rouge s'en vient. Match de football du lundi soir, ce soir. Si je t'avais dit, Renaud, en terminant, avant la saison, qu'après 12 matchs, les Cowboys seraient 5 et 7 et les Bengals seraient 4 et 8, tu m'aurais dit quoi?
Je t'aurais pas cru pour les Bengals, mais je t'aurais cru pour les Cowboys. Moi, en début de saison, c'est pas une équipe qui m'excitait beaucoup. Ils ont perdu énormément de morceaux sur le marché de l'autonomie et ils ont fait absolument aucun ajout important, mais vraiment aucun ajout important du côté des Cowboys durant la saison morte parce qu'ils savaient qu'ils avaient à re-signer Dak Prescott, ce qui a été fait, qu'ils avaient à re-signer CeeDee Lamb, ce qui a été fait, et Micah Parsons, ce qui n'est pas encore fait. Mais ils ont littéralement pas de jeu au sol. Ils sont pas capables de courir le ballon, du moins pas d'un match à l'autre chez les Cowboys de Dallas. Il va falloir que ce soit adressé l'an prochain parce que là, tout tombe sur les épaules de ton corps arrière. Puis en ce moment, ben c'est même pas Dak Prescott parce qu'il est blessé, c'est Cooper Rush qui est là, donc non, je suis pas surpris de ce qui se passe chez les Cowboys, même avec un Dak en santé, je m'attendais pas à une bonne saison de leur part. Par contre, pour les Bengals de Cincinnati, ben, on le voit, les mauvais débuts de saison à tous les ans, c'est en train de les rattraper. Ils sont tout le temps incapables de faire quoi que ce soit dans les trois premiers matchs de la saison. Tu prends trois défaites tout de suite, puis là, t'es toujours en mode, je dois remonter au classement. Quand tu joues dans une division aussi difficile que celle des Bengals, le nord de l'AFC, c'est pas mal difficile, donc c'est ça. Il va falloir remodeler la défense. Moi, j'aime pas la façon que Cincinnati est construit. Oui, on a un bon corps arrière. Oui, on a de bons receveurs, mais là, T. Higgins va devenir joueur autonome cette année. Jamar Chase, j'ose croire qu'on va le signer à long terme avec le meilleur contrat de receveur de tous les temps. Mais la défense, bon, Trey Drexler est un bon joueur, mais c'est un gars qui commence à avancer en âge. Il n'y a pas de relève en arrière. La ligne à l'attaque est pas bonne. Il n'y a pas de jeu au sol. Donc, c'est une équipe qui est mal construite, selon moi, les Bengals. Ils auraient dû profiter de leur occasion il y a quelques années quand ils sont allés au Super Bowl pour le gagner, parce que je suis pas certain que Joe Burrow va aller 3, 4, 5 fois au Super Bowl dans sa carrière.
Merci et bon football ce soir, mon chum.
Salut, mon Tony.
Merci beaucoup. Renaud Bourbonnais d'RDS.